Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires et ensuite l'histoire d'aujourd'hui. La rubrique suivante, la mise au point qui sera continuée avec le magazine culturel. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter d'abord Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Avec l'esprit de serment de la jeunesse, les étudiants indonésiens en Égypte sont invités à renforcer l'unité. AISAC Indonésie et UNIC ont tenu Work for SDGs. La ministre de l'Éducation et de la Culture invite les gens à renforcer l'alphabétisation pour l'établissement plus solide de l'État unitaire de la République d'Indonésie. L'huile de palme de l'Indonésie gagne en popularité au Pakistan. Selon le vice-président, l'ASEAN peut être un exemple de tolérance. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Maintenir l'unité nationale, bien qu'on soit à l'extérieur du pays, est le point principal qui devrait être fait par les étudiants indonésiens qui étudient en Égypte pour interpréter l'esprit de serment de la jeunesse. Il a été dit par l'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, M. Helmi Fauzi, à RRI, à l'ambassade d'Indonésie au Caire le dimanche 29 octobre. Il a souligné, bien qu'on soit à l'étranger, la jeune génération de l'Indonésie ne devait pas oublier l'identité en tant que nation de l'Indonésie. Ils doivent être en mesure de saisir l'esprit de 71 jeunes ayant déclaré serment de la jeunesse le 28 octobre, il y a 89 ans, et a pris de l'exemple des jeunes au moment-là, qui a de milieux différents, mais qui ont l'esprit d'oser unir. Quand nous sommes dans notre pays, la proximité, notre identité en tant que nation de l'Indonésie doit être renforcée à nouveau. Parce que nous sommes confrontés directement à la mondialisation, la nouvelle culture, la nouvelle valeur, qui ne sont pas encore totalement alignées sur notre mode de vie en tant que nation de l'Indonésie. Par conséquent, nous réaffirmons que nos valeurs qui sont abordées et nous nous harmonisons avec notre identité en tant que nation de l'Indonésie. Le secrétaire général de l'Union des étudiants indonésiens de l'Égypte, M. Ardi Mandaputra, a déclaré que les étudiants à l'étranger devraient mettre en œuvre l'esprit de serment de la jeunesse à travers l'apprentissage actif et d'utiliser le temps efficacement. Dans un discours prononcé par l'ambassadeur Helmi Fauzi, lors de la cérémonie de la journée de serment de la jeunesse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi, a déclaré qu'il était important que les jeunes interprètent et mettent en œuvre l'esprit de l'engagement des jeunes dans la vie quotidienne. En outre, la jeunesse doit pouvoir lutter contre les efforts pour briser l'unité de la nation et doit oser dire que l'unité de l'Indonésie est avant tout. AISEC ou Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales d'Indonésie, en coopération avec le Centre d'information des Nations Unies ou UNIC, a organisé des Work for SDGs ou des marches tranquilles dans le but d'accroître la sensibilisation du public aux objectifs de développement durable ou ODD. Cela a été fait par les relations publiques AISEC, M. Rahmat à la voix de l'Indonésie, en marge des Work for SDGs le dimanche 30 octobre 2017 à Jakarta. C'est un événement annuel qui est organisé simultanément dans 12 villes qui ont AISEC et l'objectif est d'introduire notre mouvement officiel pour soutenir les objectifs de développement durable. Son nom est Youth for Global Goal ou Legion pour un objectif mondial. C'est le mouvement que nous avons fait depuis l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales ou AISEC International a été invité à l'ONU pour la déclaration des ODD. AISEC International, y compris AISEC d'Indonésie, soutient les ODD en envoyant des étudiants pour faire des projets sociaux à l'étranger basés sur des points de ODD. Selon M. Rahmat, cette activité a été participée par les jeunes de diverses organisations non gouvernementales en Indonésie. Il a également déclaré qu'il y avait environ 500 participants impliqués dans l'événement. Le Centre de développement de la langue indonésienne du ministère de l'Éducation et de la Culture a tenu le sommet de la commémoration du mois de la langue et la littérature 2017 au ministère de l'Éducation et de la Culture, Jakarta, samedi 28 octobre 2017. L'événement qui a coïncidé avec la journée du sermon des jeunes a été ouvert par le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi. Dans son discours, le ministre Muhajir a invité tous les Indonésiens à encourager la littérature et à renforcer l'alphabétisation pour renforcer la création de l'État unitaire de la République d'Indonésie. La littérature en tant que manifestation de la beauté de la langue doit être poussée pour renforcer la diversité ainsi que la valeur de sagesse de diverses régions pour renforcer l'État unitaire de la République d'Indonésie. Par conséquent, le mouvement national alphabétisation que nous continuons à faire à réverbérer et réaliser pourrait être le fondement principal de l'Indonésie en tant que nation avancée, parce que les caractéristiques d'une nation avancée sont très solides de développer son alphabétisation. Dans son rapport, le professeur Dadang Sunendar, directeur du Centre de développement du langage indonésien, a déclaré qu'en 2017, le Centre de langue était nommé par le ministre de l'Éducation et de la Culture comme coordinateur du mouvement national d'alphabétisation, fait partie de la réalisation du règlement du ministre de l'Éducation et de la Culture numéro 23 l'année 2015 sur le développement du caractère. La commémoration du mois de la langue et de la littérature 2017 s'est achevée avec le lancement des produits du Centre de développement linguistique et le lancement du mouvement national alphabétisation par le ministre de l'Éducation et de la Culture. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que l'ASEAN pouvait être un exemple de tolérance pour le monde. Il a fait une conférence publique à l'événement Camp Interconventionnel des jeunes de l'ASEAN 2017 à l'auditorium de l'Université Darul Ulum à Jombang, dans l'est de Java, participé par 146 participants de 21 pays, y compris l'Indonésie. Selon le vice-président, l'unité de l'ASEAN était meilleure que d'autres zones qui étaient même plus homogènes, comme au Moyen-Orient, qui est principalement arabe et musulman. Yusuf Kalla a fait appel aux jeunes qui suivent le camp interconventionnel des jeunes de l'ASEAN 2017 pour devenir un leader équitable pour leurs pays respectifs à l'avenir. En plus des participants des 10 pays de l'ASEAN, les participants du camp interconventionnel des jeunes de l'ASEAN 2017 provenaient également des 11 pays amis, entre autres la Hongrie, les Pays-Bas, le Japon et la Tanzanie. L'huile de palme indonésienne est de plus en plus recherchée par les hommes d'affaires pakistanais, a déclaré le consulat général indonésien à Karachi. Le participant de l'Indonésie à la Foire internationale de commerce de Pakistan 2017 a été marqué par la signature d'un protocole d'accord avec Fahad Enterprise par PT Virya Yuda pour un premier achat de 15 000 tonnes d'huile de palme d'une valeur de 10,2 millions de dollars. Le consulat général indonésien à Karachi, Dimpo Ayudi, a déclaré qu'il soutenait pleinement le programme du gouvernement visant à accroître le commerce et l'investissement en Indonésie. À cet égard, il facilite les hommes d'affaires indonésiens à commercer avec des hommes d'affaires pakistanais. Ce protocole d'accord est une première étape positive pour les deux sociétés avant d'établir la coopération future. Le commissaire de PT Wirayuda, M. Herfian Danal, a affirmé que le protocole d'accord prouve que le Pakistan s'intéresse vraiment aux produits agricoles indonésiens. Il a expliqué que les hommes d'affaires pakistanais commercent directement avec des hommes d'affaires indonésiens qui devraient inspirer d'autres hommes d'affaires indonésiens à explorer des opportunités d'affaires avec le Pakistan. Le Pakistan est l'un des plus gros importateurs d'huile de palme indonésienne. Les exportations totales d'huile de palme indonésienne vers le Pakistan en 2016 ont atteint 1,8 milliard de dollars sur les exportations totales de 2,2 milliards de dollars. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, chers amis. Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le commentaire intitulé L'esprit de serment de la jeunesse, l'esprit d'oser unir. Le serment de la jeunesse est l'un des principaux jalons de l'histoire du mouvement indépendantiste indonésien. Le serment qui a été déclaré il y a 89 ans dans le deuxième congrès de la jeunesse le 28 octobre 1928 a été considéré comme la cristallisation de l'espoir d'affirmer les idées de la fondation de l'État de l'Indonésie. Le serment de la jeunesse est une décision qui affirme les idées sur l'existence de la patrie de l'Indonésie, le peuple de l'Indonésie et l'Indonésien. Selon l'histoire, la lutte de la nation indonésienne pour être libre du colonialisme et atteindre a été faite par diverses façons. Au début de le colonialisme hollandais, l'Indonésie a lutté physiquement qui ont été faites localement. Chacun a combattu séparément pour libérer son territoire du colonialisme. Et maintenant, la lutte physique est transformée en une lutte non physique, cela veut dire la lutte par des mouvements de jeunes qui sont membres d'organisations de jeunesse régionales, entre autres Jong Java, Jong Sumatra, Jong Batavia, Celeb, Jong Ambon et les autres. Le deuxième congrès de la jeunesse de 1928 a réussi à unir les organisations des jeunesses locales à devenir la jeunesse indonésienne et créer le serment de la jeunesse tel que une nation, la nation indonésienne, une langue, l'indonésien et une partie, l'Indonésie. Le congrès de la jeunesse qui a été organisé par les associations des jeunes indonésiens a prouvé que les jeunes hommes osaient s'unir. Ils viennent de différentes régions, les races et les religions, mais ils osent abandonner des éléments et l'égo-régionalisme. Ils ont lutté ne sont pas pour la région, mais pour l'établissement de l'État de l'Indonésie. Les différences ne sont pas un obstacle à la réalisation des idéaux et l'avancement de l'Indonésie. La différence est la principale capitale de la nation indonésienne à aller de l'avant. Bien sûr, aujourd'hui, les jeunes indonésiens plus renforcent l'unité et quittent l'égoïsme respectivement, à la fois basé sur la région, l'ethnie, la religion, la race, la classe ou le groupe. Avec l'unité, il est prouvé que le peuple indonésien a réussi à obtenir l'indépendance. Les jeunes indonésiens aujourd'hui devraient être plus créatifs et avancés par rapport que les jeunes il y a 89 ans et devraient être plus déterminés à oser s'unir. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 30 octobre 1910, la mort de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge suisse. Henri Dunant, né sous le nom de Jean-André Dunant, le 8 mai 1828 à Genève, est mort le 30 octobre 1910 à Aden. Il est un homme d'affaires humaniste suisse et aussi un chrétien protestant. Naturalisé français en avril 1859, il a fondé la Croix-Rouge. Pendant un voyage d'affaires en juin 1859, il se trouve à proximité de la ville italienne de Solferino et découvre le dégât humain de la bataille qui s'y déroule. Et à partir de cette expérience, il écrit un livre intitulé « Un souvenir de Solferino » qui a publié en 1862. Il obtient le premier prix Nobel de la paix en 1901 et est considéré comme fondateur du mouvement de la Croix-Rouge internationale. Le 30 octobre 1945, le général de brigade Malabi, le chef des forces alliées, a été tué à Surabaya qui a provoqué l'événement du 10 novembre. Le général de brigade Malabi était le commandant de brigade de 49e division de l'Andi, où les forces alliées qui ont été envoyées en Indonésie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le général de brigade Malabi a dirigé ses troupes à entrer dans la ville de Surabaya le 25 octobre 1945 pour désarmer les troupes japonaises, libérer les prisonniers de guerre du Japon. Et l'Indonésie a été dominée à nouveau par les Hollandais. L'arrivée des troupes de Malabi a obtenu la résistance des troupes indonésiennes parce que les troupes sous la direction de Malabi ont exigé qu'ils remettent les armes qui ont été saisies par la partie indonésienne du Japon. Il y a eu plusieurs conflits armés entre les deux forces, entre autres qui se sont produits le 30 octobre 1945 près du pont Rouge, Surabaya. La mort de Malabi provoque le major général Manser, remplacement Malabi, à lancer un ultimatum aux forces indonésiennes à Surabaya le 9 novembre 1945 à remettre les armes sans condition. Le 10 novembre 1945 a éclaté la bataille du 10 novembre parce que l'Indonésien refuse cet ultimatum. Le 30 octobre 1946, Uang Republik Indonesia ou ORI, la première monnaie de l'Indonésie, a été lancée. Après la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie le 17 août 1945, le gouvernement indonésien estime l'importance d'avoir la propre monnaie. Cet argent non seulement comme un moyen de paiement, mais sert aussi comme l'emblème principal d'un État indépendant, ainsi que d'un moyen de se présenter au public. Tous les 30 octobre est célébré comme la journée de la monnaie nationale. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service international La Voix d'Indonésie sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc la mise au point ayant pour le titre « Le Parlement adopte une loi sur la protection des travailleurs migrants indonésiens ». La session plénière du Parlement ou DPR de la République d'Indonésie, présidée par le vice-président du DPR, Taufik Kurniawan, a finalement adopté le projet de loi sur la protection des travailleurs migrants indonésiens, ou PPMI, mercredi le 25 octobre 2017. Le projet de loi adopté après une longue discussion et une partie de perfectionnement de la loi numéro 39/2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens ou TKI étrangers en vigueur depuis 13 ans et faisant partie du système de travail comme prévu par la loi numéro 13/2003 sur la main-d'œuvre. Le ministre de la Main-d'œuvre, Hanif Dakiri, a expliqué que le projet de loi est né dans le cadre des efforts visant à améliorer les pratiques migratoires et de protection des travailleurs migrants indonésiens, qui est différent des arrangements précédents et a été harmonisé avec la législation pertinente. Hanif Dakiri a déclaré que le gouvernement s'est fermement engagé à améliorer la qualité de la protection des travailleurs migrants indonésiens. Cet engagement est conforme au souhait du Conseil qui veut également assurer la protection des travailleurs migrants. Selon lui, le projet de loi sur la protection des travailleurs migrants indonésiens est harmonisé avec la loi numéro 25/2009 sur les services publics, la loi numéro 6/2012 sur la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et la loi numéro 23/2014 sur le gouvernement régional. Le ministre de la Main-d'œuvre, Hanif Dakiri, a également indiqué que le projet de loi comprend 7 articles importants se composant de 13 chapitres et 91 articles, dont le premier est une distinction claire entre les travailleurs migrants indonésiens et les citoyens indonésiens exerçant des activités étrangères. Deuxièmement, la sécurité sociale pour les travailleurs migrants indonésiens et leurs familles est organisée par l'Agence d'administration de sécurité sociale, BPJS. Troisièmement, une répartition claire des tâches entre les décideurs et les responsables de la mise en œuvre des politiques afin de protéger les travailleurs migrants indonésiens avant, pendant et après le travail. Alors que la quatrième substance, le placement des travailleurs migrants indonésiens à l'étranger, ses devoirs et responsabilités sont limités en ne réduisant pas la responsabilité du gouvernement dans la protection des travailleurs migrants indonésiens. Cinquièmement, le service de placement et de protection des travailleurs migrants indonésiens est assuré par le gouvernement central et le gouvernement local d'une manière coordonnée et intégrée par le biais du service intégré d'un guichet unique. Hanif Dakiri a déclaré que les futurs défis à la gouvernance du placement des travailleurs migrants indonésiens devraient donner la priorité aux aspects de la protection pour s'adapter au mouvement migratoire dynamique. Il a confirmé, le gouvernement veut que les travailleurs migrants qui travaillent à l'étranger soient plus orientés vers les travailleurs qualifiés et compétents et ne travaillent plus dans le secteur informel. Par conséquent, on nécessite les arrangements qui fournissent l'assurance et la protection des services allant d'avant le travail ou après le travail. Ceci permet d'éviter la migration non procédurale et la traite des êtres humains. Pendant ce temps, l'équipe de supervision de TKI du Parlement, Rike Diah Pitaloka, a déclaré que cette loi place la protection de l'État contre les travailleurs migrants comme une priorité. Il s'agit également d'un engagement envers la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui a été ratifiée par la loi numéro 6/2012 Selon Rieke, cette loi constitue une percée pour la fourniture d'articles liés à la sécurité sociale pour les travailleurs migrants et leurs familles, pour l'article 29, conformément au mandat de la loi numéro 40-2004 sur le système national de sécurité sociale et de la loi numéro 24-2011 sur l'administration de la sécurité sociale. Ainsi, partout dans le monde, les travailleurs migrants indonésiens et leurs familles ont le droit d'avoir la sécurité sociale sous la forme d'une assurance maladie, d'une assurance contre les accidents du travail, d'une garantie de retraite et d'une garantie de décès. Il a ajouté que la prochaine tâche est à superviser le renforcement des règles dérivées et la mise en œuvre de la loi. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Maintenir l'unité nationale, bien qu'on soit à l'extérieur du pays, est le point principal qui devrait être fait par les étudiants indonésiens qui étudient en Égypte pour interpréter l'esprit de serment de la jeunesse. Il a été dit par l'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, M. Helmi Fauzi, à RRI, à l'ambassade d'Indonésie au Caire le dimanche 29 octobre. Il a souligné, bien qu'on soit à l'étranger, la jeune génération de l'Indonésie ne devait pas oublier l'identité en tant que nation de l'Indonésie. Ils doivent être en mesure de saisir l'esprit de 71 jeunes ayant déclaré serment de la jeunesse le 28 octobre, il y a 89 ans, et a pris de l'exemple des jeunes au moment-là, qui a de milieux différents, mais qui ont l'esprit d'oser unir. Quand nous sommes dans notre pays, la proximité, notre identité en tant que nation de l'Indonésie doit être renforcée à nouveau. Parce que nous sommes confrontés directement à la mondialisation, la nouvelle culture, la nouvelle valeur, qui ne sont pas encore totalement alignées sur notre mode de vie en tant que nation de l'Indonésie. Par conséquent, nous réaffirmons que nos valeurs qui sont abordées et nous nous harmonisons avec notre identité en tant que nation de l'Indonésie. Le secrétaire général de l'Union des étudiants indonésiens de l'Égypte, M. Ardi Mandaputra, a déclaré que les étudiants à l'étranger devraient mettre en œuvre l'esprit de serment de la jeunesse à travers l'apprentissage actif et d'utiliser le temps efficacement. Dans un discours prononcé par l'ambassadeur Helmi Fauzi, lors de la cérémonie de la journée de serment de la jeunesse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi, a déclaré qu'il était important que les jeunes interprètent et mettent en œuvre l'esprit de l'engagement des jeunes dans la vie quotidienne. En outre, la jeunesse doit pouvoir lutter contre les efforts pour briser l'unité de la nation et doit oser dire que l'unité de l'Indonésie est avant tout. AISEC, ou Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales d'Indonésie, en coopération avec le Centre d'information des Nations Unies, ou UNIC, a organisé des Work for SDGs, ou des marches tranquilles, dans le but d'accroître la sensibilisation du public aux objectifs de développement durable, ou ODD. Cela a été fait par les relations publiques AISEC, Monsieur Rahmat à la voix de l'Indonésie, en mars des Work for SDGs le dimanche 30 octobre 2017 à Jakarta. C'est un événement annuel qui est organisé simultanément dans 12 villes qui ont AISEC et l'objectif est d'introduire notre mouvement officiel pour soutenir les objectifs de développement durable. Son nom est Youth for Global Goal, ou les jeunes pour un objectif mondial. C'est le mouvement que nous avons fait depuis l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, ou AISEC International, a été invité à l'ONU pour la déclaration des ODD. AISEC International, y compris AISEC d'Indonésie, soutient les ODD en envoyant des étudiants pour faire des projets sociaux à l'étranger basé sur des points de ODD. Selon M. Rahmat, cette activité a été participée par les jeunes de diverses organisations non gouvernementales en Indonésie. Il a également déclaré qu'il y avait environ 500 participants impliqués dans l'événement. Le Centre de développement de la langue indonésienne du ministère de l'Éducation et de la Culture a tenu le sommet de la commémoration du mois de la langue et la littérature 2017 au ministère de l'Éducation et de la Culture, Jakarta, samedi 28 octobre 2017. L'événement qui a coïncidé avec la journée du serment des jeunes a été ouvert par le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi. Dans son discours, le ministre Muhajir a invité tous les Indonésiens à encourager la littérature et à renforcer l'alphabétisation pour renforcer la création de l'État unitaire de la République d'Indonésie. La littérature en tant que manifestation de la beauté de la langue doit être poussée pour renforcer la diversité ainsi que la valeur de sagesse de diverses régions pour renforcer l'État unitaire de la République d'Indonésie. Par conséquent, le mouvement national alphabétisation que nous continuons à faire, à réverbérer et réaliser pourrait être le fondement principal de l'Indonésie en tant que nation avancée, parce que les caractéristiques d'une nation avancée sont très solides de développer son alphabétisation. Dans son rapport, le professeur Dadang Sunendar, directeur du Centre de développement du langage indonésien, a déclaré qu'en 2017, le Centre de langue était nommé par le ministre de l'Éducation et de la Culture comme coordinateur du mouvement national d'alphabétisation, fait partie de la réalisation du règlement du ministre de l'Éducation et de la Culture numéro 23 l'année 2015 sur le développement du caractère. La commémoration du mois de la langue et de la littérature 2017 s'est achevée avec le lancement des produits du Centre de développement linguistique et le lancement du mouvement national alphabétisation par le ministre de l'Éducation et de la Culture. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a déclaré que l'ASEAN pouvait être un exemple de tolérance pour le monde. Il a fait une conférence publique à l'événement Camp interconfessionnel des jeunes de l'ASEAN 2017 à l'auditorium de l'Université Darul Uloom à Jombang, dans l'est de Java, participé par 146 participants de 21 pays, y compris l'Indonésie. Selon le vice-président, l'unité de l'ASEAN était meilleure que d'autres zones qui étaient même plus homogènes, comme au Moyen-Orient, qui est principalement arabe et musulman. Yusuf Kalla a fait appel aux jeunes qui suivent le camp interconfessionnel des jeunes de l'ASEAN 2017 pour devenir un leader équitable pour leur pays respectif à l'avenir. En plus des participants des 10 pays de l'ASEAN, les participants du camp interconfessionnel des jeunes de l'ASEAN 2017 provenaient également des 11 pays amis, entre autres la Hongrie, les Pays-Bas, le Japon et la Tanzanie. L'huile de palme indonésienne est de plus en plus recherchée par les hommes d'affaires pakistanais, a déclaré le consulat général indonésien à Karachi. La participante de l'Indonésie à la Foire internationale de commerce de Pakistan 2017 a été marquée par la signature d'un protocole d'accord avec Fahad Enterprise par PT Wirya Yuda pour un premier achat de 15 000 tonnes d'huile de palme d'une valeur de 10,2 millions de dollars. Le consulat général indonésien à Karachi, Dimpo Ayudi, a déclaré qu'il soutenait pleinement le programme du gouvernement visant à accroître le commerce et l'investissement en Indonésie. À cet égard, il facilite les hommes d'affaires indonésiens à commercer avec des hommes d'affaires pakistanais. Ce protocole d'accord est une première étape positive pour les deux sociétés avant d'établir la coopération future. Le commissaire de PT Wirayuda, M. Herfian Danal, a affirmé que le protocole d'accord prouve que le Pakistan s'intéresse vraiment aux produits agricoles indonésiens. Il a expliqué que les hommes d'affaires pakistanais commercent directement avec des hommes d'affaires indonésiens qui devraient inspirer d'autres hommes d'affaires indonésiens à explorer des opportunités d'affaires avec le Pakistan. Le Pakistan est l'un des plus gros importateurs d'huile de palme indonésienne. Les exportations totales d'huile de palme indonésienne vers le Pakistan en 2016 ont atteint 1,8 milliard de dollars sur les exportations totales de 2,2 milliards de dollars. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à présenter la maison traditionnelle de Sumatra du Sud, la maison Ulu. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix d'Indonésie, le service international de RRI, soit sur les zones courtes, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Rumah Ulu ou Maison Ulu est une maison traditionnelle à l'amont de la rivière Musi au sud de Sumatra. Le nom de Ulu vient d'un mot Uluan qui signifie village. Uluan est également appelé de la population locale qui vit à l'amont de la rivière Musi. Toutes les parties de la maison sont faites de bois qui se trouvent au bas de la maison, soutenu par un tronc d'arbre unglen, car on pense que l'arbre peut survivre jusqu'à des centaines d'années. En plus d'être durable, la maison Ulu est également résistante aux tremblements de terre. La conception de la structure de la fondation de la maison sur pilotis d'Ulu est une clé qui permet à cette maison de ne pas s'effondrer facilement lors d'un tremblement de terre. Son poteau est mis sur le tas de pierre de sorte que la pierre fonctionne comme une roue. S'il y a un tremblement de terre, la maison ne fait que trembler et ne s'effondre pas. Serviteur, la construction de la maison Ulu doit suivre certaines règles qui ont été convenues. Le bâtiment doit faire face à l'avant de la ligne d'écoulement de l'eau pour que la maison qui soit construite puisse être libre des inondations qui viennent soudainement. En outre, la construction de la maison doit suivre le système Ulu-Ulak, à savoir si la terre pour construire une maison est encore large et à le projet de construire une autre maison Ulu, de sorte que la construction de la maison doit être tenue de la partie la plus en amont. Le système Ulu-Ulak n'est pas seulement la régulation du développement de la maison, mais aussi la régulation de la place socialement. La maison en amont ou en avant est pour ceux qui sont plus âgés dans la ligne de la famille et ainsi de suite jusqu'à la maison la plus en aval qui est occupée par les plus jeunes descendants. Ce système s'applique également dans la division de l'espace dans la maison. La maison Ulu se compose de trois parties, à savoir la pièce de devant, le salon et la pièce arrière. Les trois parties sont divisées en plusieurs parties telles que garang ou lintut, haluan et kakudan. Salgedongan ou ambien est la cuisine. Garang ou lintut est une pièce qui fonctionne de bavarder les propriétaires de la maison dans l'après-midi après avoir fait le travail routinier. tandis que Halouan et Kakoudan est une pièce spéciale qui est utilisée comme aire de repos. Halouan est pour l'homme, tandis que Kakoudan est pour les femmes. Dans une autre partie, il y a Gedongan ou Ambin. Cette salle est au milieu de la maison Oulu, dont l'étage est plus élevé par rapport aux autres salles. Cet endroit est destiné à une personne considérée comme la plus âgée. À la maison, pour donner des conseils aux enfants et petits-enfants. Le conseil peut être aussi sous forme d'histoire avant de dormir. Au fil du temps, la maison Oulu est rare de trouver dans le sud de Sumatra. Si vous êtes intéressé à voir l'unicité de cette maison traditionnelle, vous pouvez visiter le musée Balaputra Dewa à Palembang, Sumatra du Sud. La forme de la maison traditionnelle peut être vue à l'arrière du musée et devient l'une des grandes collections du musée. Selon la note, la maison Oulu au musée a 200 ans et a été prise du village d'Asemklat sous communauté de Pangandonan, la résidence d'Ogan Komering Ilir. Serviteurs et serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La maison traditionnelle de Sumatra du Sud, la maison Oulu ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de Mizi et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est membeli kemeja batik ou en français acheter la chemise de batik. Tout d'abord, je vais vous présenter le vocabulaire et les expressions ayant le lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Je vais les prononcer deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Membeli. Membeli. En français, acheter. Kemeja. Kemeja. En français, chemise. Batik. Batik. En français, batik. Mencari. Mencari. En français, chercher. Lengan pendek. Lengan pendek. En français, manche courte. Di sini, en français, ici. Tersedia, tersedia, en français, il y avoir. Bermacam-macam, en français, divers. Cocok, cocok, en français, être approprié. Warna, warna, en français, couleur. Suka, suka, en français, aimer. Warna coklat, en français, brun ou brun. Motif, motif, en français, motif. Classique, classique, en français, classique. Coba, coba, en français, essayer. Harganya berapa? Harganya berapa? En français, combien cela coûte-t-il? 400 ribu rupiah. 400 ribu rupiah. En français, 400 000 rupiah. Boleh kurang? Boleh kurang? En français, peut-elle être négociable? Maaf, maaf. En français, désolé. Harga pas, harga pas. En français, prix fixe. Bonne, bonne. En français, facture. Bayar, bayar. En français, payer. Cassier, cassier. En français, caissier. Serviteur, voici le dialogue entre Steve A et vendeur B au magasin de vêtements. A. Saya mencari kemeja batik lengan pendek. Je répète, saya mencari kemeja batik lengan pendek. En français, je cherche une chemise de batik à manches courtes. B. Di sini tersedia bermacam-macam kemeja batik pria. Di sini tersedia bermacam-macam kemeja batik pria. En français, ici il y a une variété de chemises de batik des hommes. B. Mungkin ada yang cocok. Mungkin ada yang cocok. En français, il peut y avoir une chemise assortie. A. Warnanya bermacam-macam. Warnanya bermacam-macam. En français, les couleurs varient. A. Mana yang cocok untuk saya ya? Je répète, mana yang cocok untuk saya ya? En français, quelle chemise me convient? B. Anda suka warna apa? Anda suka warna apa? En français, quelle couleur que vous aimez? A. Saya paling suka warna coklat. Saya paling suka warna coklat. En français, je préfère la couleur brune. B. Ini warna coklat dan motifnya klasik. Ini warna coklat dan motifnya klasik. En français, voici la couleur brune et le motif classique. B. Silakan dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. En français, essayez d'abord s'il vous plaît. Pedetang après. A. Kemeja ini cocok untuk saya. Kemeja ini cocok untuk saya. En français, cette chemise me convient. Berapa harganya? Berapa harganya? En français, combien coûte-t-il? B. Harganya 400 ribu rupiah. Harganya 400 ribu rupiah. En français, le prix est 400 000 rupiah. A. Apakah boleh kurang? Apakah boleh kurang? En français, peut-il être négociable? B. Maaf, sudah harga pas. Maaf, sudah harga pas. En français, désolé, le prix fixe. A. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. B. Ini bonnya, silakan bayar di kasir. Terima kasih. Je répète, ini bonnya, silakan bayar di kasir. Terima kasih. En français, voici la facture, s'il vous plaît, payez au caissière. Merci. Chers amis, c'est à la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir que cette rubrique sera utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Dans cette édition, on va présenter des chansons de Keroncong qui est chantée par Rinto Harahap, un chanteur qui est plus célèbre comme un compositeur de chansons indonésiennes. Eh bien, pour commencer notre rencontre aujourd'hui, écoutons une chanson de Keroncong intitulée « Dingin » ou en français, froid. C'est une chanson créée par Rinto Harahap qui a été popularisée par Hetty Kus Endang en 1979. Il est un compositeur qui a donné des couleurs au monde de la musique pop indonésienne. Il est mort à Singapour le 9 février 2015 à l'âge de 65 ans. Chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée Bunga Sedap Malam ou La Tuberose, chantée par Rinto Harahap.
Thank you. hujan turun lagi. Sedang hari indah begini, mengapa burung tak bernyanyi? Indah yang tercipta kini hilang sudah, engkau bertukar. Memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap yang sejati. Bunga yang ku tanam di hatimu sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu. Bukannya bunga petik layu, bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap mah.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonesia Jakarta. C'était des chansons indonésiennes chantées par Rinto Arahab. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Mengapa engkau sedih lagi? Sedang malam indah begini. Senyumlah, jangan kau bersedih. Hati kecil ini tak pernah berdusta padamu lagi. Memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap yang sejati.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.